Hein? Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, peut-on être heureux en ville ? Eh bien, en 2050, en tout cas, 70% de la population mondiale habitera en ville. Et certes, même si Copenhague n'a rien à voir avec Lagos, la plupart des urbains aspirent finalement aux mêmes choses. La ville, c'est un meilleur accès à l'emploi, à l'éducation, à un médecin de qualité. Mais c'est aussi parfois profiter des embouteillages, de la pollution, des difficultés de logement ou encore de la surpopulation. Construire pour répondre aux demandes des habitants, mais pas trop quand même, les villes sont finalement devenues un serpent qui se mord la queue en perpétuelle évolution et en même temps un peu figé dans une fuite en avant. Alors est-ce qu'on peut être heureux en ville ou plutôt est-ce que les villes peuvent changer pour rendre heureux les habitants ? Plus d'espaces verts ou d'eau potable, plus de transport ou tout simplement moins de galères. C'est à vous de nous répondre, les voisins et les voisines. Vous pouvez nous téléphoner dès maintenant pour dialoguer avec nos invités au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp pour nous appeler gratuitement. Cette émission est réalisée en partenariat avec le site d'information The Conversation et avec notre partenaire. Donc bonjour Cléa Chakraverty.
Bonjour Emmanuel.
Cléa Chakraverty, vous êtes journaliste pour le site The Conversation qui publie régulièrement beaucoup d'articles sur les villes, pas seulement à l'occasion des élections municipales en France. On va peut-être rappeler ce que c'est que le site The Conversation.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. The Conversation est donc un site qui décrypte l'actualité et l'information par les analyses de chercheurs universitaires.
Maggie Casal avec nous, architecte urbaniste. Bonjour.
Merci de cette invitation. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé l'ONG Urbaniste Sans Frontières, que vous présidez. Et vous étiez d'ailleurs au Forum Urbain Mondial à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, il y a quelques jours. 20 000 intervenants du monde entier. Et vous-même, vous avez vécu dans pas mal de villes.
Oui, tout à fait. Moi-même, j'ai vécu environ dans 30 villes.
30 villes ?
Oui.
Parmi elles ?
Parmi elles, Abu Dhabi, il y a 20 ans. Et puis,
qui n'était qu'un village, pratiquement.
Oui, à l'époque, non, c'était une ville, mais là, c'est quadruplé en 20 ans. Après, j'ai vécu dans plusieurs villes en Europe, à Bruxelles, où j'ai travaillé au Parlement européen. J'ai vécu très longtemps à Paris, parce que je vis à Paris depuis 28 ans. Avant, j'ai vécu beaucoup au Liban. J'ai vécu aussi dans pas mal de pays du Proche-Orient. Et puis, j'ai vécu aussi un peu au Sénégal, au Maroc beaucoup. Donc voilà, la liste est énorme.
Dakar, Casablanca, notamment.
Oui, oui, je passe assez souvent.
Avec nous également Damien Deville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe anthropologue, vous avez publié « Toutes les couleurs de la Terre » aux éditions Tana. Vous avez vécu au Burkina Faso.
Oui, à Abidjan un petit peu.
Et à Abidjan. Sur le site The Conversation, vous formulez d'ailleurs des propositions pour améliorer les villes. On en parlera. Également avec nous, Pierre Creuset. Bonjour Pierre Creuset.
Bonjour.
Vous êtes un ancien élu français, fondateur de Centre-Ville en Mouvement, qui est un mouvement qui a été créé il y a une quinzaine d'années, une association qui rassemble des élus parlementaires de tous bords politiques. Vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est qu'un centre-ville qui se meurt, comme dans tant de petites villes françaises ?
Alors, vous avez entièrement raison sur tout ce qui touche au centre-ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le centre-ville, c'est complètement, c'est le transport, le logement, ce que vous parlez, le réchauffement climatique et tout. Et en France, l'État, par exemple, ne montre plus l'exemple. Les hôpitaux partent des centres-villes. Donc, c'est de l'emploi, c'est des patients qui viennent. Les professions libérales partent également des centres-villes pour s'installer vraiment en banlieue. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer.
Des commerçants qui ferment.
Exactement. Alors, ça, c'est la partie que l'on voit. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas de pouvoir d'achat, s'il n'y a plus rien, et là, on s'aperçoit qu'on est en pleine métamorphose et que c'est grâce à la volonté politique des élus que les choses peuvent changer.
Et vous avez raison de dire ça, c'est ce qui se voit, parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe dans une ville, hein, à l'œil nu, comme
évidemment,
ça.
Évidemment, parce que voilà, le centre-ville, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a la piétonnisation, il y a le stationnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, les choses ont changé et on est en train d'être bousculé de toutes parts.
En tout cas, vous acceptez de faire le grand écart avec toutes les villes de la planète. On peut parler de n'importe quelle ville dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être heureux en ville? C'est à vous de nous répondre, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Et tout de suite, on donne la parole à des auditeurs qui ont posté des messages sur WhatsApp. On commence par Bernard à Kinshasa, en RDC.
Je voulais un peu intervenir par rapport à la situation qui se vit ici en RDC, plus précisément à Kinshasa, où je me trouve. C'est vraiment difficile de vivre heureux ici à Kinshasa. Je ne sais pas si la seule manière pour pouvoir vivre heureux, c'est d'avoir sa propre voiture. Mais c'est difficile d'en avoir, tellement que notre pays n'a pas vraiment des moyens. Beaucoup de gens vivent, ils dépendent vraiment du transport public. Donc là, ça cause des embouteillages. Et parfois, on est épuisé quand on revient et tout ça. Donc, on n'est pas vraiment aéré. Et aussi, la surpopulation, on n'a pas d'eau. Donc, c'est ça, c'est que je voulais juste intervenir. Merci beaucoup.
Bonjour, cette mère de voisins. Je m'appelle Olivier Kissoub et je suis de Bukavu, dans la République démocratique du Congo. Déjà, moi, je ne me sens pas bien du tout dans ma ville parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit améliorer. Mettant de côté l'accès à l'électricité et à l'eau qu'on n'arrive pas à avoir dans la ville de Bukavu, pour le moment, dans la ville de Bukavu, on a deux problèmes encore plus graves qui s'est créé dans la ville de Bukavu. Et quand vous savez très bien ici à Bukavu, il y a la surpopulation. Les gens construisent partout. Et avec le réchauffement climatique et tout, il y a de pluies torrentielles qui arrivent et à chaque fois, je vous assure, on attend des gens qui sont morts. Il n'y a pas très longtemps, il y a un immeuble de 5 étages qui s'est effondré, juste comme ça. On a vu seulement l'immeuble s'effondrer dans la ville, en pleine ville, comme ça, on voit l'immeuble s'effondrer. Ça, c'est un grave problème. Il y a des gens qui sont morts. Mais aussi, il y a le problème de déchets. Et nous n'avons pas de dépotoir ici à Bukavu et on voit des déchets partout. Partout. Ça, c'est un grand problème. On croyait que ça va se régler mais avec le nouveau maire, mais ça ne se règle toujours pas. Merci.
Bonjour, chers voisins, chères voisines. Je voulais dire qu'il est dans mon pays vraiment difficile de vivre en ville. L'accès aux soins médicaux est très difficile. Les transports posent problème. Par rapport à la pollution, il n'y a aucune mesure qui est prise. Mais aussi, pour avoir le boulot ici, à Lubumbashi, au Congo, c'est tout un problème. Il y a des tendances tribales, ethniques, familiales qui règnent vraiment. Les exodes ruraux maintenant, cet afflux de ces populations qui viennent des villages crée encore d'autres défis à relever. Le banditisme, la promiscuité, les enfants de la rue. Alors, il est peut-être important que les autorités revoient un peu ce problème dans mon pays. Merci, chers voisins, chères voisines. C'est Eli Monga de Lubumbashi.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, peut-on vivre heureux en ville? Les voisins et les voisines, vous avez la parole. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Cléa Chakraverty, Maggie Casal, il y a une vraie prise de conscience quand même aujourd'hui des citoyens, des habitants des villes qui comparent les autres villes, les autres lieux de vie, de regarder où est-ce qu'ils vivent, est-ce que leur ville est adaptée à leur vie, à leurs besoins, à leurs aspirations? Maggie Casal.
On peut surtout parler de la ville informelle en Afrique. Parce qu'en fait, on dit, est-ce qu'on est heureux en ville ? La question qui se pose pour l'Afrique notamment, est-ce qu'on est heureux dans la ville informelle ? Puisque c'est l'informalité qui règne en Afrique, y compris en économie, y compris en développement urbain. Les amis qu'on a entendu parler, nos voisins en Afrique, que je connais très bien, puisque je passe 4 mois de l'année en fait en Afrique, je fais des tournées dans plusieurs pays, ces témoignages-là sont très très touchants et ce sont des réalités. Encore, on n'en a pas parlé des inondations en récurrence en Afrique de l'Ouest. Ce sont en fait des problèmes qu'on pourrait régler très facilement si on avait dès le départ une vraie planification stratégique, une vraie ce qu'on appelle ingénierie de projet, et puis on pourrait davantage anticiper en fait ces dégâts. Le problème aussi des bâtiments de 5 étages qui s'effondrent, c'est parce que ce sont dans l'informalité totale, des bâtiments sans permis. C'est là où la question
se pose. Et sans architectes, souvent.
Oui, c'est ça. Et puis, les architectes manquent énormément en Afrique. Ça, c'est aussi un appel qu'on peut faire pour aider nos amis africains à avoir accès dans des écoles d'architecture en France ou dans d'autres pays d'Europe, et y compris puisse les aider à monter sur place des formations en architecture et en urbanisme.
En même temps, est-ce qu'il faut vraiment opposer la ville formelle et informelle? Parce que la frontière, elle n'est pas si claire que ça. Il suffit de prendre des villes indiennes, par exemple, Cléa Chakraverty.
Oui, tout à fait. Et je rejoins tout à fait ce que vient de dire notre ami ici. Les villes informelles, finalement, et ça, je vais m'appuyer sur une analyse écrite par Marie-Hélène Zera, qui est géographe et urbaniste spécialiste des villes indiennes, qui travaille à l'IRD, et qui explique, par exemple, que finalement, sont dans les villes moyennes en Inde, les plus, ce qu'on appelle des villes moyennes, qui sont des villes non multimillionnaires, donc pas comme Bombay ou Delhi, qu'on compte vraiment de très nombreux millions d'habitants. Bombay, par exemple, c'est 20 millions d'habitants. Des villes un peu plus petites, par exemple, où les quartiers informels, finalement, vivent grâce à l'informalité. Et finalement, pour pallier au manque de transport public, au manque d'échanges, au manque d'architecture, puisqu'ils ont également, bien sûr, ces problèmes de récolte des déchets, ce qui a été évoqué un peu plus tôt, ou tout simplement de non-architecture, non-planification. Ce sont aussi grâce aux communautés locales, par exemple les communautés artisanes, elles parlent tout simplement de la ville de Kharagpur, dans l'Uttar Pradesh, dans le centre de l'Inde, qui est une communauté artisane de fabrication de meubles très ancienne, et qui a mis en place tout un système d'échange, d'entraide, pour pouvoir justement faire valoriser l'économie locale. Je veux aussi juste rebondir là-dessus, c'est aussi ce qui a été développé par deux autres chercheuses qui travaillent notamment à l'ENSAM à La Réunion, école d'architecture, et qui parlent de villes heureuses, de villes inclusives, où on trouve justement une valorisation de la ville et la participation, ce que vous évoquiez, des habitants dans la conception de la ville. Mmh. Donc elles appellent justement à prendre en compte la vie des habitants.
C'est ça, alors des villes formelles où on serait plus heureux, des villes informelles où on serait moins heureux, c'est pas forcément en tout cas ce que l'avenir nous réserve, Damien Deville.
Non, ce qu'on observe dans les villes africaines, et certains auteurs l'ont travaillé sous le terme de urbanisme subalterne, c'est que ça crée des trajectoires d'émancipation. Dans le sens où Henri Lefebvre disait ça, c'est que la ville prive de l'habiter. Et ça, on le voit très bien dans les villes occidentales, on met l'habiter dans l'habitat, c'est-à-dire que le seul espace...
La ville prive de l'habiter,
ouais.
C'est-à-dire...
On met l'habiter dans l'habitat,
nous expliquer.
C'est-à-dire que le seul espace d'appropriation individuelle et collective, c'est notre propre appartement quelque part. Mmh. On arrête de vivre l'espace public. Or, être en lien avec l'autre dans l'espace public, qu'il soit humain ou non humain, des espaces de nature, participe à la créativité, participe au bien-être, participe à l'émancipation.
Et donc, ça, c'est ce qu'on observe en Afrique. Donc une ville où on serait heureux, c'est une ville où on a envie de sortir de chez soi, même si son chez soi est formidable.
Tout à fait. Une ville à laquelle on se sent appartenir, puisqu'on participe à la création de l'aménagement urbain. Ça rejoint un concept qui a été travaillé par Henri Lefebvre, qui s'appelle le droit à la ville, la capacité de chacun à participer aux décisions publiques.
Je trouve ça hyper intéressant parce que là, on
Pierre
est
Croisé.
Sur de l'excessif, entre guillemets. C'est vrai qu'en Afrique, il y a plein de problèmes, mais on voit que le centre-ville, c'est un tout. Et là où vous avez raison, c'est que d'abord, les gens veulent plus participer. On voit que dans les grandes villes, il y a 79% des Français, dans le baromètre CSA de cet été, qui disent qu'ils veulent participer aux actions du centre-ville. Et c'est vrai que le bien-être, c'est également le centre-ville. En France, on dit mon centre-ville, mon marché. Il y a un sentiment d'appartenance qui est hyper important.
Et alors, vous allez voir, je vais vous lire quelques messages d'auditeurs sur le continent africain. On n'est pas si éloigné de cette aspiration, finalement, on est même très proche. Une auditrice qui est à Antananarivo, à Madagascar, nous dit, bon, pour être heureux en ville, il faut de la propreté, de la sécurité et que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Propreté, sécurité, c'est le programme d'Agnès Buzyn à la mairie de Paris, hein, c'est juste intéressant, qui vient de remplacer en urgence Benjamin Griveaux, démissionnaire depuis le scandale de la vidéo à caractère intime. Donc voilà, elle aspire, elle dit la même chose finalement, hein,
oui,
dans la capitale
malgache.
Et puis,
voilà, le centre-ville aujourd'hui en France, c'est une des priorités des municipales dans les programmes de municipales. C'est
exactement.
Obligatoire.
Didier à Lubumbashi en RDC, lui, dit « J'aimerais que les mairies travaillent correctement. La surpopulation n'est pas vraiment un problème si la répartition des ressources de la nation est faite correctement. » Donc là, il y a un appel également à la gestion. Miguel à Brazzaville, au Congo-Brazza, ne dit pas autre chose. « Nos villes ont besoin d'une administration forte. » Administration forte, il l'a écrit en majuscule, hein. Malheureusement, c'est le contraire. Donc il y a cette aspiration et à la fois à prendre part ou à être mieux géré.
Je pense qu'il faut un gestionnaire de la ville et c'est le maire. aujourd'hui, le baromètre CSA prouve vraiment que 9 Français sur 10, donc 92% des Français, disent que le centre-ville, c'est une affaire du maire ou de ses élus. Et donc, ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous parliez de regard, il faut regarder de haut la ville et le cœur de ville. Et là, aujourd'hui, l'acteur principal, c'est quand même le maire qui pose les pions et qui dit, bah, voilà, comment bien vivre dans la ville, comment bien vivre, bah, c'est du commerce. Le commerce, si vous voulez, il n'est pas là, il n'a pas à s'en occuper, mais il faut qu'il s'en occupe.
Vous nous disiez tout à l'heure, Damien Deville, que finalement, une ville où on se sent bien, c'est une ville où on a envie de quitter son appartement ou sa maison, d'avoir une activité dehors, qui est un espace public qui soit pensé, qui vive aussi pour les habitants. Est-ce que, par exemple, si on regarde des villes très modernes, Maggie Casals, si on prend des villes comme Toronto, comme Paris, est-ce qu'il y a des grandes différences dans la façon de penser ce que les urbanistes appellent, moi je trouve que ça jargonne un peu, mais l'espace public.
Oui, tout à fait. Ce thème-là est très important. Tout à l'heure, je parlerai aussi pour l'Afrique. Alors, l'espace public est très développé dans les pays, disons, occidentaux, parce que dans le latin, vous savez, donc, on a le forum et dans la grecque antique, on avait l'agora. C'était des vrais espaces où les gens se réunissaient et c'était les espaces d'échange et de démocratie participative déjà à l'époque, hein, pour l'ensemble des thématiques de gouvernance. Donc là, on parlait tout à l'heure aussi, toutes les thématiques que vous avez évoquées en tant qu'association d'élus, c'est aussi la gouvernance. Comment faire la gouvernance? Est-ce que la gouvernance doit se faire uniquement par des politiques ou c'est aussi les citoyens, les associations doivent participer à cette gouvernance? Là, ce sont des thèmes majeurs. Donc là, quand on regarde Toronto, on s'aperçoit que c'est encore plus ouvert, y compris pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire immigrés, les populations déjà intégrées sur place, et en plus pour les touristes. Et à Toronto, on peut trouver dans chaque coin de rue une ouverture d'espace public dans lesquels on a des offres culturelles. Ce que malheureusement, on ne trouve plus à Paris. C'est ça qui est regrettable. Paris, qui est quand même la capitale culturelle du monde, qu'on doit garder en fait ce sens-là.
Vous j'aimerais pas dire bien qu'il n'y a pas d'offre culturelle à Paris.
J'aimerais bien qu'Agnès Buzyn nous écoute et puis qu'elle ajoute aussi dans le programme l'offre culturelle. L'offre gratuite culturelle dans les coins des rues de Paris.
Parce que à Toronto, donc, qui est quand même une ville économique hein, au Canada, il y a une véritable politique d'offre culturelle.
Oui, tout à fait. Par exemple, on peut trouver des diffusions de cinéma, on peut trouver des places pour des théâtres qui sont offerts parce qu'il y a des vrais stands. C'est-à-dire, en fait, on est comme si on était déjà dans un forum où tout le monde peut se rencontrer dans des coins de rue et avoir à partir de là des offres culturelles. C'est-à-dire, c'est la culture qui vient vers les gens. Et alors qu'en France, à Paris notamment, là, malheureusement, on est obligé de faire nous-mêmes la démarche d'aller chercher où on peut trouver la culture et ça devient de plus en plus cher, de plus en plus inaccessible. C'est là où, pour la ville inclusive, ça commence à poser des problèmes en ce qui concerne nous, les pays donc, occidentaux.
Et en même temps, ce n'est pas la première demande des habitants dans les villes, l'offre culturelle à l'heure actuelle. Ce n'est pas la première préoccupation que Léa Chakraverty.
Non, on l'a entendu tout à l'heure par les auditeurs. Je voulais simplement aussi rebondir sur ce que vous venez de dire, Magali. C'est également la question de la gouvernance que vous avez évoquée, qui a été évoquée également plus haut. Également, Pierre Creuset, vous avez tout à l'heure dit le centre-ville, c'est l'affaire des maires. Nous, on le voit bien dans les différents articles de chercheurs que nous avons publiés. Il y a aussi cette question de la gouvernance, de la participation de l'habitant. Et on l'a vu aussi en France, à Paris, la question de reprendre l'espace public par la parole politique. On l'a vu avec les actions de type Nuit debout, mais aussi les Gilets jaunes. On le voit aussi aujourd'hui en Inde, sur certaines places qui sont devenues des places publiques, où on fait de la politique, on fait de la gouvernance, où les citoyens se rejoignent, qui ne sont pas forcément des mêmes communautés, et qui discutent de l'avenir de leur ville, l'avenir de l'espace public, ce dont on a besoin, les infrastructures, etc. Je me rappelle, par exemple, une expérience tout à fait personnelle, mais baladant, par exemple, dans un grand parc à Londres, donc quand même une ville occidentale, je n'ai pas trouvé la même chose à Paris, a priori, où des personnes vont se balader et vont un petit peu haranguer les fous. Alors ça peut être des hulberlus, mais ça peut être aussi des gens qui ont des propositions politiques intéressantes.
Donc du débat public de rue finalement.
Du débat public de rue qui vient remettre un peu de gouvernance, un peu de politique et surtout de la discussion et du dialogue pour améliorer les choses au niveau du citoyen. Et ce serait, je pense, intéressant, ce que vous avez également proposé, je crois, Damien Deville, de voir comment les élus peuvent s'emparer de ces doléances finalement.
On accueille un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Souleymane est étudiant en droit à Dakar. Bonjour Souleymane. Ah, et c'est, non, pardon, c'est Eddy. C'est Eddy qu'on a à Kinshasa. Souleymane, on l'entendra après. Bonjour Eddy.
Bonjour Emmanuel.
Eddy, vous voulez revenir sur le concept de ville informelle. On vient d'en parler il y a quelques minutes. Vous vous dites, mais finalement, une ville informelle, c'est une ville où il y a de l'espoir.
Oui, oui. Il y a de l'espoir parce que dans les grandes villes comme chez nous, par exemple à Kinshasa, il y a des débouchés pour tout un chantier qui a une activité et qui se forge et peut se retrouver, avoir une place dans la ville, gagner sa vie.
Même si c'est difficile.
Bon, c'est difficile, mais il y a toujours des opportunités du fait que dans des grandes villes, c'est un grand marché où vous pouvez proposer n'importe quelle activité, vous pouvez proposer un service ou bien des biens. Et vous allez gagner un part de marché.
La débrouille. Merci Eddy de nous avoir appelé. Est-ce qu'à Lagos, Maggie Casal, vous qui connaissez bien Lagos, qui est un peu comparable en termes de taille, bien que ça soit une plus grande ville et que ça soit aussi une ville plus développée où il y a probablement plus d'extrêmes qui se juxtaposent par rapport à Kinshasa.
Oui, comme vous avez demandé des chiffres, par exemple, je peux dire à Lagos aujourd'hui, les statistiques sont variables entre 19 millions et 22 millions d'habitants pour Lagos, qui est devenue la plus grande ville d'Afrique. Alors qu'il y a 5 ans, c'était le Caire qui était la plus grande ville. Donc Kinshasa qui se prépare, mais Lagos, dans les statistiques, visiblement, va rester la plus grande ville d'Afrique. Et à la fin de ce siècle, nous allons avoir les cinq plus grandes villes du monde en Afrique, c'est-à-dire Lagos, Kinshasa, et puis les trois autres, je ne peux pas pour l'instant affirmer, mais en tout cas, ce sont déjà les prévisions. Kinshasa se prépare, et puis c'est vrai, c'est l'informalité qui règne, comme je disais tout à l'heure, comme Lagos, et ce qui est quand même très intéressant de distinguer en réalité cette approche du bonheur. Parce qu'il y a l'espoir en Afrique, notamment dans ces villes où on commence à avoir des développements même informels. Il y a un espoir pour le lendemain, c'est-à-dire que les habitants se disent « ma ville va être mieux demain ». Ce qu'on a perdu, nous, en Occident, parce que nos villes étaient tellement bien, aujourd'hui, on a l'impression que ça recule. Alors qu'en Afrique, il y a toujours l'espoir que demain, c'est mieux. Et on a parlé rapidement de l'exode rural aussi. C'est parce que les gens quittent la ruralité pour trouver du travail en ville. C'est là où ils arrivent. Et puis, manque de logement, bien sûr. Bah, ils sont dans des logements informels. Et parce qu'ils sont venus à la recherche de droits à la ville, notamment. De droits à trouver du travail en ville. Et comme c'est informel, donc du coup, c'est plus facile de trouver du travail. C'est aussi facile de trouver comme aussi c'est plus facile d'être viré dans son travail ou peut-être même être exploité. Mais malgré tout, c'est un espoir que rarement on peut trouver aujourd'hui dans nos pays occidentaux très bien réglementés où on peut avoir beaucoup de difficultés dans tout.
Le droit à la ville.
Ouais, je vais vous donner un exemple. La ville de Dijon. La ville de Dijon.
Très belle ville.
Très belle ville, grosse ville de France. Était morte le dimanche matin. Ça veut dire que le centre-ville était mort. Le maire dit, on va demander au marché de réouvrir le dimanche matin. Les commerçants du marché ont refusé. Ce qu'ils ont fait depuis maintenant 4 ans, ça fonctionne, d'avril à septembre, à fin septembre, ils ont organisé un brunch le dimanche matin avec les restaurateurs de Dijon. Ça cartonne. C'est 650 couverts servis tous les dimanches. Donc les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin.
Si tant est qu'on ait les moyens de se payer un brunch le dimanche matin.
Oui, mais vous avez tous les cafés qui sont ouverts autour des halles. Et donc c'est hyper important. Ça veut dire que toutes les catégories sociales aujourd'hui reviennent en centre-ville, retrouvent des boulangers, retrouvent. Et voilà. Et c'est comment le dimanche on peut également avoir ces lieux de convivialité.
Alors, ceci dit, c'est vrai que ça recrée de l'activité économique quand on conserve un centre-ville attractif, mais ça n'empêche pas, dans les villes moyennes en France, d'avoir toujours ces énormes centres commerciaux, cette juxtaposition en périphérie, dans ce qu'on appelle le périurbain, de magasins énormes qui demandent beaucoup de chauffage, beaucoup de climatisation l'été, avec des produits à bas coût, mais qui s'alignent. On ne sait pas pourquoi il y en a 4, un seul suffirait, et qui sont vides toute la semaine.
Oui,
ça continue.
Ça continue, mais c'est en baisse. on voit que aujourd'hui, la grande distribution de périphérie diminue de 5% par an. Mmh. Donc c'est important.
Attendez, là, vous parlez du chiffre d'affaires dans la grande distribution.
Oui, le chiffre d'affaires en règle générale.
Bah, écoutez, ça doit rester encore vachement rentable, hein, parce que quand on voit ces énormes magasins qui sont vides du lundi au vendredi, après ça commence à se remplir à partir du vendredi après-midi, on peut se poser des questions quand même.
Oui, mais c'est de moins en moins rentable. Vous avez vu, vous avez certaines grandes enseignes, grands distributeurs qui licencient du monde. Donc, quand on parle de grande métamorphose, on est complètement dans la métamorphose. Et en France, on s'aperçoit que c'est plutôt le centre-ville aujourd'hui qui bénéficie de ce qui est en train de se passer, les circuits courts. On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique. Eh bien, on voit que certaines villes ont mis de l'eau dans la ville, des cours d'eau, des miroirs d'eau et tout.
Mais
ça rafraîchit la ville.
Est-ce que redynamiser les centres-villes, ça ne revient pas à en faire des vitrines où tout est très beau, on vient pour prendre une glace, siroter un café, et puis on repart parce qu'on n'a pas les moyens de se loger là, on n'a pas les moyens d'acheter ce qui est vendu dans ces centres-villes. Certes, c'est très beau, mais on y passe et on en repart, ou pas. Ou est-ce qu'il y a des exemples de centres-villes qui sont en train de se redynamiser réellement pour les habitants, par les habitants, et pas seulement de la vitrine?
Bah oui, on a deux exemples, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. L'exemple de Bayonne, où vous avez 4000 personnes en plus qui habitent le centre-ville. Vous avez la caserne des militaires qui a été transformée, moitié conseil départemental, moitié université. Donc ça, tout un quartier de la ville a été... Il y a des étudiants Voilà, on voit la vie. Et puis vous avez Bordeaux, par exemple. Bordeaux, où vous avez une volonté politique très forte et vous avez 15 000 habitants en plus. Donc, les habitants ramènent du monde.
Avec quand même tout un débat sur la gentrification du centre-ville de Bordeaux qui est devenu quand même assez inabordable pour pas mal de gens.
Oui, en fait, ce qu'on observe,
c'est que... Je vois au nez du chef.
Non, c'est parce que je crois que le problème, il est beaucoup plus profond. Le problème, c'est qu'on invente le développement des territoires aujourd'hui sur la compétitivité des territoires. À l'intérieur d'une même métropole, entre les quartiers et entre les métropoles et les autres territoires. Et dans ce jeu de David contre Goliath, il y a des territoires qui sortent leur épingle du jeu. Dijon, Bordeaux, il y a des territoires qui s'écroulent. Alès, Roubaix, etc. Et je pense que pour être heureux en ville, c'est aussi permettre à d'autres personnes qui ne sont pas dans les métropoles d'être heureux. Et je pense qu'on ne peut plus penser aujourd'hui les politiques métropolitaines sans penser les impacts qu'elles ont sur les territoires qui s'étendent au-delà des métropoles. Il faut replacer les politiques de développement urbain dans des dynamiques relationnelles entre métropoles et petites villes, entre villes et campagnes.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à Souleymane qui nous appelle de Dakar. Vous êtes étudiant en droit. Bonjour Souleymane.
Bonjour Emmanuel. Bonjour. Chers invités, bonjour 7 milliards de voisins.
Vous avez entendu notre invité, Pierre Creuset, qui appartient, qui a fondé l'association Centre-Ville en Mouvement. C'est peut-être quelque chose qui vous parle, parce que c'est vrai que Dakar, ce n'est pas le cas de toutes les capitales africaines, mais Dakar, il y a vraiment eu ces dernières années une désertification du centre-ville. Honnêtement, il ne se passe pas grand-chose, il ne se passe plus grand-chose au plateau. J'en sais quelque chose pour avoir fait une émission en public il y a pas longtemps, quelques semaines au plateau, et c'est difficile de rencontrer des gens, de rencontrer des jeunes notamment, parce que tout se passe quand même à l'extérieur aujourd'hui, et davantage encore à la périphérie, Souleymane.
Oui, vous avez parfaitement raison. Si le Sénégal aujourd'hui compte 16 millions d'habitants, et la répartition démographique fait aujourd'hui que Dakar compte plus de 5 500 000 de la densité humaine, donc vous voyez naturellement les conséquences. Alors, pour ne pas dire parmi les peuples les plus reculés du monde, je dirais que c'est la ville la plus condensée d'Afrique de l'Ouest.
Pour des raisons géographiques, hein, quand même.
Pour des raisons, voilà, surtout sur les raisons géographiques, voilà, qui poussent que la densité humaine, mais aussi économique, puisse constituer en tout cas l'une des conséquences les plus majeures des centres-villes, c'est-à-dire que c'est l'embouteillage, mais aussi... Ouais. Le problème de transformer aussi l'occupation anarchique de nos grandes...
Mais alors attendez, vous avez dit au standard Souleymane, pour se rendre à Dakar, c'est presque aussi long que pour aller à Ziguinchor. Vous exagérez là quand même. Ziguinchor, c'est dans le sud, dans le Casamance. Je ne sais pas où vous habitez, dans quel quartier périphérique, mais...
Sinon, c'est prendre avec deux types de transports différents. Par exemple, si vous prenez l'avion pour se rendre à Jugenson, vous arriverez avant, même celui qui doit se rendre au centre-ville de Dakar. Parce que, par exemple, là où j'habite, j'habite à Colobane, à peu près 2 km de du centre-ville. Mais vous pouvez mettre 2h, 1h30 pour allier la grande, le centre-ville. Pendant ce temps, vous pouvez mettre 45 minutes pour prendre l'avion de Dakar à Jugenson.
Donc, si vous êtes à 5 km du centre-ville, vous pourriez y aller à vélo, finalement. Mais c'est vrai que ça pourrait sembler,
oui, à vélo aussi.
Ça pourrait sembler à vélo, assez singulier à Dakar.
Oui, c'est beaucoup plus écologique, comme on dit, en tout cas de nos jours. Mais avec notre climat, c'est beaucoup plus difficile.
Vous avez autre chose à rajouter, Souleymane?
Oui, en tout cas, je voulais dire en résumé, surtout l'occupation anarchique. Vous savez que je pense que l'une de vos invités vient de le dire. Nous sommes dans des pays, en tout cas, un peu reculés, ou bien je dirais même en voie de développement. Et je pense que certains d'entre sont là, des sociétés de démographie, qui doivent nous dire en prévision d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, que doit être notre population. Quelle population devons-nous obtenir d'ici 10 ans, 5 ans, 30 ans? Et je pense que ça aussi, ça découle d'une volonté, d'un manque de volonté jadis de nos dirigeants, je ne dirais même pas sénégalais, mais africains. Aujourd'hui, si aujourd'hui, depuis la classe de primaire, on entend l'exode rural, et aujourd'hui on parle de l'exode rural massif. Parce que de plus en plus, les activités économiques se concentrent en ville, particulièrement à Dakar. Donc, ce qui va pousser le maximum de la composition populaire.
Ouais, vous posez vraiment le problème des villes africaines où il y a à la fois la croissance démographique et puis l'exode rural qui continue, Damien Deville, pour grossir les effectifs des villes. Si on prend une ville comme Dakar d'ici 10 ans, on peut dire sans se tromper que la taille de la ville aura probablement doublé.
Oui, c'est dû au fait qu'on a tendance à centraliser les opportunités, mais également les imaginaires dans les grandes villes, dans le sens où on a tendance à penser en tant que jeune, et j'en suis moi-même la caricature, que les espoirs se situent dans les grandes métropoles. Et du coup, on part des autres territoires. Et dans cette guerre de l'aménagement du territoire, de la lutte contre de la sururbanisation, je crois qu'il y a une guerre culturelle aussi qui est amenée, de se dire que c'est pas parce qu'on vit dans les grandes métropoles qu'on est plus heureux qu'ailleurs, en fait. Chaque territoire a une richesse. Chaque territoire a des trésors sur lesquels miser. Et c'est également ça qu'il faut porter. Et je pense que dans les grandes villes, ça demande aussi de repenser également cet aménagement de l'urbain. Dakar, je connais peu, pardon pour ça, mais je connais mieux Abidjan. Abidjan, il y a un trésor qui est incroyable, c'est la lagune. Pourtant, la lagune, elle est visible d'un point de vue paysager, mais elle n'est pas du tout appropriée et aménagée. Du coup, c'est un trésor qui n'est pas partagé, finalement, par les Abidjanais et les Abidjanaises.
Alors, ça y est, le programme gouvernemental de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, ça y est, c'est passé, c'est en route, et de la lagune, est brillé, pour un coût global de 282 milliards de francs CFA. Reste à savoir... qui en profitera? Il y a de nombreux projets immobiliers aussi autour de cette lagune.
C'est clair. Alors, il y a une guerre foncière qui est très forte en Afrique. Mais je crois que la Côte d'Ivoire, en fait, il y a des villes également qui sont incroyables. Je pense à la capitale des savanes, Bouaké, je pense à Yamoussoukro. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que je crois que la surspécialisation dans les champs de cacao a fait que les territoires ont perdu leur diversité. Et du coup, penser la transition de l'urbain demande également de penser la transition des territoires ruraux vers un habité plus complexe, plus systémique, vers des activités plus complexes et diversifiées.
J'aurais juste rajouté à ce que vous dites, Damien, et également rebondir ce qu'a dit Pierre Creuset tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de se retrouver, et vous parliez, Damien, des habitats plus complexes, en tout cas des lieux plus complexes de vie. Et récemment, donc, une chercheuse, Jane Coulon, de l'ENSAM Réunion, nous a écrit un très bel article à propos de la Réunion, qui est donc une ville qui présente des similitudes avec d'autres villes des tropiques, donc la construction anarchique, de l'urbain non maîtrisé, et des grosses fractures entre des lieux d'habitat, donc des grosses métropoles, et puis des lieux d'habitat un peu moins urbanisé ou avec des villages et beaucoup d'injustices sociales. Et ce que la chercheuse propose notamment, c'est de réinvestir ce qu'on appelle souvent des tiers-lieux, donc des endroits qui ne sont ni dans les grosses métropoles ni dans des lieux un peu reculés, qui sont des lieux qui sont souvent des passés industriels, des passés culturels très importants, où les habitants pourraient se retrouver.
Et ça serait quoi, par exemple?
Alors, par exemple, ça peut être des lieux, des jardins potagers. C'est un des exemples. Ça peut être des espaces de jardinage, des espaces culturels, ce qui a été soulevé tout à l'heure, des espaces de vie également. Sur les jardins, je crois que Damien, vous êtes beaucoup plus compétent que moi.
Et comment comment refaire de la vie. Nature voilà. Dans la ville.
Et puis du lien culturel.
C'est hyper important.
Alors, il y en a qui sont quand même très dubitatifs sur la nature dans la ville. De toute façon, c'est sûr que, par exemple, à Paris, il faudrait je ne sais pas combien de milliers d'hectares pour nourrir Paris. Donc là, on est hors jeu. Mais beaucoup se disent, ce n'est pas la priorité. Et puis, il y a des études canadiennes qui ont montré que quand on rajoute des arbres dans une ville, en fait, les gens disent, pas forcément, ils ne sont pas forcément plus heureux. En tout cas, ils se sentent plus heureux. Alors, ça n'a pas changé leur accès au logement, leur accès à l'emploi. Mais il y a quand même quelque chose qui change dans la tête des gens.
Et les villes sont quand même tous, en France notamment, minérales. Parce que c'était la grande mode, on mettait aucun arbre partout.
Là, aujourd'hui, il y a un retour. Il ne fallait pas gêner la voiture,
voilà,
surtout.
Voilà, à l'arbre très important. Et je tiens à le dire, parce que...
Il ne faut pas oublier une chose quand même en France, c'est que remettre des espaces verts, ça coûte de l'argent parce qu'il faut entretenir. Et comme on aime que ça soit propre, s'il y a des feuilles par terre, il y a des risques de glissade au moment de l'automne, notamment quand les feuilles tombent. Il ne faut pas oublier ça, par rapport à l'Afrique, c'est quand même une grosse différence. On a de la végétation qui est caduque. Risque de chute, de plainte contre la municipalité. Enfin,
mais on évolue au niveau des machines, des choses. Vraiment, il y a de l'évolution d'outils vraiment très efficaces pour les cœurs de ville.
Dans la bataille des municipales, là, en France, les candidats s'affrontent dans certaines villes à coups d'arbres. Moi, je veux planter tant d'arbres, moi, je vais en planter
exactement.
Plus. Bon, est-ce que derrière, il y a une vraie politique de verdissement des villes? C'est quoi l'enjeu?
Mais c'est obligatoire.
Et si c'est pour mettre des plantes dans des pots, est-ce que ça a du sens ou pas?
Ouais, mais par exemple, la ville de La Ciotat, je vous donne un exemple.
Ouais, au bord de la mer, quand
au
même.
Au bord de la mer. Mais les rues, il y avait des rues piétonnes magnifiques. Alors eux, ils ont rajouté des arbres. Et en plus, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les habitants gardent leur boîte de conserve vide. C'est repeint dans une maison d'association. Il y a des petits arbres. Et donc, vous voyez toute la ville avec, sur les balcons, partout, vous avez des boîtes de conserve peintes avec des arbres. Voilà.
Damien Deville.
Oui, alors en fait, ce qui est passionnant dans les projets de jardin et de végétalisation qu'on évoquait tous, c'est que c'est des véritables lieux d'émancipation. Et ça, je l'observe dans une ville française, Alès, qui est une ville qui a des cicatrices, où il y a de la pauvreté. Des gens retournent à la terre pour lutter contre la pauvreté. Mais ces jardins participent également à créer du lien social, à créer un paysage, à sortir des HLM.
Quand vous dites retourner à la terre, c'est-à-dire pour faire pousser quelque chose, à mettre dans l'assiette le soir.
Avoir un jardin partagé. Oui, mais justement, ça dépasse ça. La première motivation est économique, mais un apprentissage se met en place qui fait que le jardin devient un lieu d'émancipation pluriel quelque part. Et ça évoque une question politique que les élus doivent saisir, mais également les citoyens, désurbaniser la terre au sens littéral du terme. Ça veut dire mettre plus de nature en ville, mais également retourner en campagne, retourner vivre en campagne.
En fait, on a beaucoup développé dans les documents de planification stratégique en France les termes de trame verte et trame bleue. Et on développe aussi maintenant les trames, ce qu'on appelle gris, c'est-à-dire pour la faune notamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la continuité écologique doit être en continuité de la campagne vers les villes et les métropoles. Et là, ce que je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Damien, c'est qu'il faut connecter les campagnes et les villes. Et c'est la raison pour laquelle de développer les villes intermédiaires, ce qu'on appelait dans le passé les villes secondaires. Ça, c'est très important. En plus, c'est UN
Alors,
Habitat.
Sur le continent africain, c'est la plus grosse croissance urbaine à l'heure actuelle, la plus rapide en tout cas, les villes secondaires.
C'est là où en fait il faut développer, mais d'une manière, comme on a dit tout à l'heure, avec une vraie gouvernance et une vraie centralité aussi. Parce que si on ne réfléchit pas à la centralité, les villes intermédiaires se développeront autour des couloirs, comme on a entre, par exemple, le couloir de Lagos et Abidjan. C'est parce qu'on a ce couloir-là sur lequel aussi le commerce se développe, c'est là où l'urbanisation s'étale.
Est-ce qu'on va pas arriver finalement
centralité?
Est-ce qu'on va pas arriver à des rubans de villes où ça ne s'arrêtera jamais finalement d'une ville à l'autre? C'est déjà le cas d'ailleurs.
C'est déjà le cas d'une manière justement informelle puisqu'il n'y a pas la planification. Il y a même des urbanistes français, sans les citer, ils étaient sur ces écoles en disant les villes doivent être en continu, c'est-à-dire sans centralité ou peut-être des polarités centrales ou autres. Mais en tout cas, ce qui est important.
Donc si on veut pas devenir fou dans ces villes en continu, il faut remettre de l'espace vert à l'intérieur.
Surtout, parce qu'en plus, en l'occurrence, l'exemple que je donnais, c'est sur le littoral. Donc, c'est-à-dire avec l'ensemble des risques qu'on peut avoir avec le changement climatique. C'est-à-dire, il faut se préserver. Il faut urbaniser plus à l'intérieur des côtes et pas tout de suite à proximité aussi.
Allez, on donne la parole à une auditrice qui nous a posté un message sur WhatsApp. Elisabeth à Abidjan.
Bonjour RFI, je suis Elisabeth Diegba, j'habite la Côte d'Ivoire à Abidjan, à Cocody, cité commandant Sanon aux deux plateaux. Et moi j'ai vu ma vie se dégrader dangereusement. Là j'habite ma cité depuis 1998, elle se dégrade dans les questions d'insalubrité, les questions d'accès à l'éducation. On a une école primaire qui n'a pas de clôture ni de toilettes pour les enfants. On a des commerces qui s'installent un peu partout de manière dangereuse. On a nos enfants qui se retrouvent dans la rue à tout moment. Donc, on a le bruit qui s'installe. Je parle de commerces qui s'installent de manière partout dans les cités quand même d'Otois. On a vu des gouvernements prendre des initiatives. Mais pour nous, femmes de Sanon, on pense que l'initiative la plus importante à prendre, c'est l'initiative communautaire. Il faut que les communautés s'engagent. Alors nous, on s'est engagé à nettoyer notre quartier une fois par semaine. Et ça, c'est l'action des femmes de notre cité. On espère que cette action contribuera à rendre au moins notre quartier propre. Et ça va nous rassembler pour nous permettre d'adresser au fur et à mesure les autres problématiques. Merci RFI et à bientôt.
Bonjour RFI, bonjour les voisins, bonjour les voisines. De mon point de vue, les déchets partout, tout ça vient de l'éducation et le civisme. Moi, j'aimerais que dans nos pays africains, l'État se focalise sur le civisme et l'éducation corporelle, surtout la moralité et la bonne conduite. Merci, moi, c'est Kone Ibrahima depuis Dodokwa, en Côte d'Ivoire, dans la sous-préfecture d'Aféri. Merci beaucoup, merci.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Voilà, on a entendu Elisabeth à Abidjan et Kone qui est à Adzopé, une petite ville comparée à Abidjan dans le sud de la Côte d'Ivoire, puisqu'on parlait des villes secondaires, ce qu'on appelait autrefois des villes secondaires. Pierre Creuset, vous voulez réagir au témoignage d'Elisabeth ?
Non, je voulais réagir par rapport...
Sur la mobilisation des citoyens ?
Sur les citoyens. On voit que les citoyens sont prêts à s'investir pour leur cœur de ville. Donc, c'est très important. Ça veut dire que demain, on peut demander, par exemple, il y a des jeunes retraités en France qui peuvent s'investir, qui peuvent faire des choses pour leur cœur de ville.
Si tant est que les élus aient envie de travailler avec les citoyens.
Évidemment, mais il faut une volonté politique très importante. On en a parlé. Je vous donne un cas encore, un exemple, Nancy. Nancy, tout le monde connaît la place Stanislas, qui est une place magnifique, qui est maintenant complètement piétonne et tout. Avant, il y avait 500 voitures dessus. Les commerçants, les habitants étaient vent debout quand on a retiré les voitures. Aujourd'hui, personne ne veut que cette place redevienne avec des voitures. Donc, je pense que là, il faut écouter les habitants, travailler avec les habitants et qu'après, il y a un patron qui prenne la décision.
Et une politique de transport, parce que c'est bien joli de mettre des centres-villes piétonniers, mais il faut ensuite qu'il y ait des transports à l'intérieur de ces centres-villes piétonniers.
Exactement.
Des parkings éventuellement aux périphéries ou pas loin des centres-villes pour que des gens qui viennent de plus loin puissent se garer en voiture. Je parle pour les villes secondaires.
Et c'est hyper intéressant ce que vous dites. Et je pense, juste pour rajouter, là par exemple, on a l'Europe qui s'intéresse à ça. Donc les villes européennes qui veulent partager avec les villes françaises. Et il y aura des assises européennes, la deuxième biennale des assises européennes, au Parlement européen. Donc ça veut dire que en juin prochain, donc ça veut dire les choses sont en train d'évoluer.
Alors moi je voudrais vous lire quand même un message que je trouve très intéressant de Bonaventure qui est à Abéché au Tchad et qui dit en ce moment on essaye de faire partir une certaine partie de la population à N'Djamena pour construire des stations-service et installer des vendeurs de voitures. Est-ce bien cela développer une ville? Vous allez dire que je fais le grand écart, mais ça me fait penser à, au projet de la Gare du Nord à Paris. On a le projet de mettre, alors tout ça est encore pas complètement figé, mais on a le projet de mettre plus de magasins que de services aux voyageurs et pour s'occuper des trains. On se demande quand même si partout aujourd'hui, il n'y a pas cette dualité dans les villes entre l'enjeu économique et le bien-être des habitants, les besoins des habitants, Damien Deville.
Oui, en fait, on pense la ville comme un avatar du capitalisme, en fait, comme un seul outil marchand, et on en oublie de penser ce qui devrait tous nous unir en ville, la relation, des relations de justice, des relations émancipatrices qu'on pourrait porter.
Enfin, il faut que les gens aient du boulot en ville.
Avec l'autre. Oui, mais on peut créer du boulot à travers la relation, justement. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a des trajectoires d'innovation très belles. Et moi, ce que j'aimerais dire envers peut-être les mondes africains, c'est qu'ils ont des trésors d'habiter qui sont incroyables, sur lesquels ils pourraient composer sur leur aménagement du territoire, au lieu d'essayer de rattraper les métropoles occidentales qui sont pleines de précarité chez nous, qui sont pleines d'uniformité et qui ont tendance à briser la magie des territoires. Mmh. Voilà. L'Afrique est pleine de richesses, il faut que les Africains misent dessus. Quoi.
Tout à fait, l'Afrique, c'est l'avenir de notre planète déjà. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que Urbanistes sans frontières, qui travaille beaucoup en Afrique, on a mis en place un programme qui s'appelle Afrique Ville Durable. C'est là où c'est intéressant parce qu'on parle des villes, mais c'est quand la ville est durable, la ville est inclusive, c'est là où on peut trouver le bonheur. Et dans ce sens-là, nous avons intégré la société civile africaine pour travailler avec nous. Nous avons créé aussi une coalition internationale pour la ville et les territoires durables. Donc actuellement, on a plus de 300 membres. Quand je dis membres, ce n'est pas des individus, ce sont des entités, y compris des ONG locales, y compris des universités, et des centres de recherche, des petites entreprises et des start-up, plus des associations professionnelles, comme Ordre des architectes, etc., et aussi des élus locaux. Donc c'est très important parce qu'on ne peut pas travailler sans les élus et les élus ne peuvent pas travailler sans les habitants. Nous avons, dans le cadre de ce programme, des groupes de travail et nous avons réalisé, le mois d'octobre dernier, parce que c'était le Urban October de UN Habitat, nous avons organisé avec les membres de notre coalition en Afrique, dans 14 pays, parallèlement, en laps de 20 jours, 36 événements majeurs avec des concertations et des enquêtes. Et nous avons réussi à réaliser pas mal de diagnostics, comme vous entendez aujourd'hui,
Est-ce que ça et des recommandations. Et ça montre parfois que les élus continuent d'être déconnectés des besoins des habitants, des aspirations des habitants.
Ça peut arriver malgré leur volonté. Moi, en Afrique, je connais notamment à Cocody, parce qu'il y avait tout à l'heure une voisine de Cocody qui parlait. Je connais des élus de Cocody que je viens de rencontrer d'ailleurs une partie à Abu Dhabi il y a quelques jours lors du Forum Urbain Mondial, parce qu'on a là-bas, il y avait de l'ensemble des élus, les grandes maires des grandes métropoles, y compris des élus de base et des quartiers d'Abidjan. Et donc, les élus étaient là. Ils donnaient de leur temps, ils donnaient de leur énergie, ils étaient là pour apprendre qu'est-ce que c'est le nouvel agenda urbain, qu'est-ce que c'est, par exemple, l'objectif de développement durable numéro 11, communauté et ville durable, comment ils peuvent être utiles pour leurs habitants, quels projets on peut faire ensemble. Ils ont sollicité Urbanistes sans frontières pour des partenariats sur place. Donc, je pense que les élus, majoritairement, ils sont de très bonne volonté, les élus locaux.
Oui, moi j'aimerais terminer sur une question qui va peut-être vous sembler tout à fait saugrenue, mais vous savez que depuis l'épidémie de coronavirus en Chine, la vie dans plusieurs villes est complètement bouleversée du fait du confinement. Vous avez forcément lu les uns et les autres ou entendu des témoignages. Un témoignage d'une habitante à Pékin dans le journal La Croix hier, elle dit « La vie s'est ralentie, il n'y a plus de foule, de stress, de bruit. Je n'ai jamais vu Pékin ainsi, c'est irréel, plus de voitures. Avec mon ami, nous vivons enfermé dans l'appartement, on se recroqueville. » Et est-ce que finalement, en dehors du drame sanitaire, des très nombreux morts, est-ce qu'il y aura un enseignement à tirer de cette expérience de vie urbaine, Damien Deville ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question aussi ?
Oui, je ne me la suis pas posée en ces termes, je dois vous avouer. Mais ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un seuil à ne pas dépasser dans les villes, un seuil de bien-être quelque part. Peut-être qu'il arrive un moment où les villes sont trop denses et c'est terminé. Au lieu de les penser sur elles-mêmes, on devrait penser le développement d'autres types de territoires. Moi, c'est un peu à ça que ça me fait penser.
Claire Chakraverty.
Oui, tout à fait. Je rejoins Damien sur ce point. Il y a plusieurs chercheurs qui ont aussi pensé cette question de l'échelle humaine dans laquelle nous vivons. Et peut-être que ces expériences parfois malheureuses, comme celle de l'épidémie sanitaire, vont nous obliger à repenser effectivement le lien de l'autre en termes de communauté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire être heureux dans une ville à notre échelle. Ça peut être l'échelle tout simplement du voisinage, l'échelle, par exemple, quelqu'un parlait des déchets, d'aller chercher soi-même les déchets en communauté, nettoyer une plage, comme c'est le cas à Djou, à Bombay, par exemple, ou même à Paris.
Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à cette discussion merci passionnante beaucoup. Sur les villes, et merci à vous, merci. Les voisins et les voisines, pour vos très nombreuses interventions, merci vous le savez. Vous. C'est vous qui faites l'émission aussi tous les jours. Demain, on se retrouve, on parlera éducation, comme chaque vendredi, dans quelques instants, le journal.
RFI, tous les cinémas du monde.